Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
18h à Brobo, village situé près de Boaké et partout ailleurs sur le territoire national. Merci de vous informer sur Radio de la Paix. Au sommaire de ce 18h, plus de 110 recettes de services des ministères passeront en recettes fiscales. Une décision qui émane du Conseil des ministres de ce mercredi. Les explications de cette mesure avec le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly dès l'entame de ce journal. Un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté hier par le Sénat ivoirien dans le cadre de la lutte contre la fraude sur la nationalité, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambilé. Sur le continent, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils à El Fasher, ville du Darfour Nord, selon une organisation dénommée Emergency Lower. Et puis dans ce journal, nous aurons un dossier d'actualité relatif au Challenge App Afrique, un concours de start-up en Afrique francophone lancé par France Média Monde et qui porte sur le thème « Le numérique au service des énergies vertes », un dossier proposé par Ghislain Koulibaly. Voilà pour nos grandes lignes. Madame, Monsieur, bonsoir. De nombreux sujets d'ordre économique, énergétique, politique et sécuritaire ont été abordés en Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 avril au palais de la présidence à Abidjan Plateau et présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Les 112 recettes de services qui ont été identifiées dans différents ministères seront transformées en recettes fiscales. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Les recettes de services, ce sont des recettes que les ministères percevaient pour certains services qu'elles rendent. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État.
La Côte d'Ivoire est l'un des 4 pays de l'Afrique subsaharienne qui vont désormais intégrer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement comme pays membre. Mais quel intérêt pour la Côte d'Ivoire? La réponse du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Les pays qui sont membres de cette banque peuvent bénéficier de certains financements, d'où l'intérêt pour notre pays à rentrer dans cette banque-là. C'est la marque de la confiance qui est faite à la solidité de notre économie et évidemment tous les pays qui sont membres ont des facilités en termes de financement de leurs projets de développement.
La situation sécuritaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire a également été évoquée par le porte-parole du gouvernement.
Nos frontières sont ce qu'elles sont et ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. Et c'est ce qui va se passer avec le Burkina. Et très vite, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 8 mai 2024.
Parlons de la vie de nos institutions. Le Sénat ivoirien, avec à l'unanimité des membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités, a adopté un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité. C'était hier mardi à Yamoussoukro, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambilé, revient sur l'importance de ce texte.
Le président de la République, dans sa volonté de lutter efficacement contre la fraude sur la nationalité, a décidé la mise en œuvre de plusieurs moyens d'action. Le premier moyen d'action a été la création d'un bureau central de la naturalisation, dédié exclusivement à la réception et à l'examen des demandes de naturalisation et comprenant en son sein tous les intervenants dans le processus de naturalisation. Ce processus échappe à tout intervenant extérieur au service concerné et à toute velléité de fraude. Le deuxième moyen d'action, c'est la lutte contre la fraude documentaire, notamment en matière d'état civil, point de départ de la fraude sur la nationalité. Le troisième moyen d'action est la lutte contre les mariages de complaisance, objet du présent projet de loi. Dorénavant, l'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'ivoirien qui matérialise en fait l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple.
Samson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, dans des propos recueillis par notre correspondant sur place, Émile Yao. Et dans le cadre des préparatifs des prochaines opérations électorales, notamment la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante CEI procédera à la mise à jour de la cartographie électorale, opération qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Et donc on écoute l'éclairage de Dr Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Péléphoro-Gon Koulibaly de Korogo.
Cette cartographie s'inscrit dans la droite lignée de sa mission. L'échéance qui arrive, je crois que c'est en 2025, elle doit actualiser ses données. Il y a eu de nouveaux majeurs. Elle va également vérifier si les bureaux de vote qui étaient préalablement définis pour les anciennes élections sont encore adaptés. Elle a vraiment besoin de cette cartographie pour actualiser ses données, pour faire des propositions parfois à l'exécutif aussi. L'objectif, c'est d'actualiser et la finalité, c'est d'éviter effectivement qu'il y ait énormément de contestations. Parce que vous savez, en Afrique, c'est assez récurrent, nos élections sont souvent soumises à beaucoup de contestations. C'est une procédure habituelle qui permet de se rapprocher autant que faire se peut de la sincérité du scrutin.
Que vous inspire donc cette volonté des politiques de pouvoir s'impliquer ?
Oui, alors le libellé même de l'institution déjà permet de clore le débat. Il s'agit d'une commission indépendante. Donc en réalité, c'est aux politiques de s'accorder, surtout dans le contexte africain, il faut qu'on s'accorde sur les modalités. Mais en même temps, nous avons des échéances politiques dans quelques années. Est-ce qu'il faut organiser continuellement des tables rondes avec l'opposition ou bien l'exécutif, ou bien mettre en place des concertations ou seulement s'intéresser aux aspects techniques? C'est énormément de questions qu'on doit régler dans peu de temps. L'idéal aurait été qu'il y ait constamment des séances de travail, mais sans pour autant freiner la mission qui a été confiée à cette commission. C'est à elle de trouver les voies et moyens pour que tout le monde s'accorde sur le bien fondé de sa mission.
C'était à l'instant Dr Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Péléphoro-Gon Koulibaly de Korogo. Il était en ligne avec Gapienan Ouattara. Une semaine après la 15e édition de la semaine de la sécurité routière tenue du 3 au 10 avril dernier sur l'ensemble du territoire national, le conseiller technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou, était l'invité de Tout Savoir Sûr, une tribune d'échange et d'information initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. On écoute.
C'est un défi que nous pensons pouvoir relever si tout le monde s'engage à cela. D'abord, les conducteurs eux-mêmes qui doivent respecter les règles de circulation, qui ne doivent pas être mus par d'autres motifs que, quand ils sont sur la route en tout cas, la sécurité, l'observation de la sécurité routière. Donc l'incivisme sur la route constitue un grand défi et nous pensons que les efforts conjugués de sensibilisation mais aussi de répression peuvent contribuer à cela. Et en ce qui concerne les mesures de répression, vous avez aujourd'hui la vidéo-verbalisation que nous avons mise en place. Le déploiement de la vidéo-verbalisation permet aujourd'hui d'avoir une surveillance du réseau routier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de telle sorte que le conducteur se sent constamment suivi sur le réseau routier. Et donc, il est beaucoup plus enclin à observer les règles de circulation. À côté de cela, la présence des forces de l'ordre, même si elle n'est pas permanente, mais devrait pouvoir amener les conducteurs à avoir un comportement beaucoup plus délicat. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que, de façon générale, la peur du gendarme n'est plus de mise.
Vous écoutiez le conseiller technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou. Et puis les 15 et 16 avril dernier, une dizaine de journalistes des agences de médias grand public en Côte d'Ivoire ont été formés à Abidjan sur l'emploi inclusif et les droits inclusifs du handicap, une initiative de Sight Saver, une organisation internationale qui propose des solutions pour la participation significative des personnes handicapées à l'éducation, à la santé et au marché du travail. Les précisions avec Jean-Mélène Bitti.
Sur le choix des journalistes pour cette formation, les explications avec Astoussa, directrice pays de Saint-Sever.
Nous avons voulu partager avec les journalistes ce document de politique de protection des personnes handicapées.
Salek Oulda Dad, chargé de plaidoyer chez Saint-Sever, revient sur le rôle des médias dans la communication sensible du handicap.
Les médias ont un rôle important à jouer. Un, pour déjà vulgariser la convention et les textes qui protègent les droits des personnes handicapées. Deux, à sensibiliser le grand public, les communautés sur certains nombre de pratiques préjudiciables. Et trois, c'est surtout se rappeler les engagements des États qui ont signé ces instruments.
Présent à cet atelier de formation, Dogo Raphaël, du FACI, a invité à la mise en place du comité interministériel du handicap.
Ce comité a pour rôle de développer la collaboration multisectorielle. Dans chaque démembrement de l'État, au niveau des différents ministères techniques, qu'un point focal soit nommé et que cette personne-là puisse servir de point de relais pour la mise en œuvre de la politique de ce ministère-là en faveur des personnes handicapées.
Écoutons la réaction de quelques journalistes après la formation.
Christelle Foïdé, c'est qu'il ne faut plus dire personnes en situation d'handicap, plutôt les personnes handicapées.
César Ebroké, en matière d'éducation, on ne parle plus d'école spécialisée, on parle d'inclusivité, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes handicapées soient dans les mêmes écoles avec tout le monde, et il est important que le gouvernement prenne les dispositions pour que les enseignants soient mis dans les conditions pour former les personnes avec leur handicap.
Saint-Sever est présent dans 35 pays et surtout promeut le droit des personnes handicapées.
Un mot d'agriculture dans ce journal pour aider à accroître la production vivrière de la Côte d'Ivoire. Une distribution officielle de kits agricoles dans le district autonome des montagnes a été lancée officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a remis près de 2500 tonnes de semences et d'intrants aux producteurs de riz de Guiglo dans la région du Kavali. Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkwi, nous en dit un peu plus.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, de prime abord, s'est entretenu avec les usiniers de transformation de riz du quartier Yaoundé sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation. Le gérant Moussa Bamba précise.
En termes de production, nous allons jusqu'à 400-600 tonnes par an. Les difficultés que nous avons, c'est l'accès aux paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy.
Direction sur le périmètre du fleuve Nzo, des agriculteurs au travail qui reçoivent séance tenante des semences et des intrants des mains du ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le président de la coopérative des producteurs de riz de Guiglo, Vasiki Doukouré, à la réception.
Avec ces intrants, je pense que nous serons mis de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, justifie cette action.
Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à 1000 hectares. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation.
À noter que ce geste marque le lancement de la distribution officielle des kits agricoles dans le district autonome des montagnes. Stéphane Adams, de Guiglo, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils à Al-Fasher, ville du Darfour Nord, longtemps épargnée par les combats et où vivent de nombreux réfugiés, a affirmé mardi un comité d'avocats pro-démocratie dans une organisation dénommée Emergency Lawyers qui documente les atrocités commises contre les civils depuis le début de la guerre il y a un an entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et dans un communiqué publié ce mercredi 17 avril, Emergency Lawyers se dit troublé par l'accélération du rythme des opérations à El-Fasher et les villages environnants. De retour en Côte d'Ivoire pour ce dossier d'actualité proposé par Ghislain Koulibaly qui parle du Challenge App Afrique, la finale de la 8e édition du concours de start-up en Afrique francophone lancé par France Média Monde a eu lieu le 3 avril dernier à l'Institut français d'Abidjan Plateau. Cette année, les candidats ont compété sur le thème « Le numérique au service des énergies vertes ». Le projet retenu est celui de Divin Kwaba Touka, originaire de la République du Congo, qui a développé une Green Box intelligente qui permet de lutter contre les pertes et déchets agroalimentaires. Et l'innovation, c'est le prix coup de cœur Digital Energy Facility remporté par l'ivoirienne Nora Monet. Dossier d'actualité de Ghislain Koulibaly.
Sous des applaudissements bien nourris du public,
j'ai la joie et l'honneur de remettre le prix Challenge Up Afrique de la 8e édition à Divin Kouébatouka. Félicitations.
Vincent Fleury, directeur des environnements numériques à France Média Monde, annonce le lauréat de l'édition 2024. Sur plus de 720 candidatures soumises, 10 ont été sélectionnées et 3 retenues pour la finale. Parmi tous ces concepts innovants figure la Green Box de Divin Kouébatouka.
C'est une sorte de chambre froide que nous mettons à la ferme dans les zones rurales reculées qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça permet aux agriculteurs de conserver leurs produits. Et dans cette même dimension, nous avons aussi installé les chambres froides au niveau des marchés. Ça permet que les mamans, auparavant, qui vendaient à la va-vite leurs produits, peuvent avoir un espace pour stocker leurs produits.
À la fois communautaire et écologique, le projet de Divin Kouébatouka va même au-delà du Congo-Brazzaville et vient répondre à plusieurs besoins en Afrique. Jeanne Richard, journaliste environnementaliste à RFI et membre du jury.
C'est un projet qui est adapté au changement climatique. Donc ça, c'est une chose. Et moi, ce que j'ai aimé en particulier, c'est que c'est un projet qui est communautaire. On a 7 chambres froides pour le village. Ça, c'est une question qui est au cœur du fonctionnement, au cœur de la vie des Africains en Côte d'Ivoire et ailleurs dans les autres pays.
L'autre prix majeur de ce Challenge App Afrique, c'est le coup de cœur énergie numérique remporté par Nora Monet. Elle s'est penchée sur la contribution des langues locales ivoiriennes pour faciliter la compréhension des enjeux énergétiques en zone rurale. Son projet s'intitule GreenEd.
Il faut pouvoir se former pour pouvoir développer des compétences et puis faire la bonne transition vers l'énergie verte. D'où l'idée de pouvoir proposer des contenus de formation en langue locale pour permettre à toute cette population-là de pouvoir bénéficier de cours et de développer des compétences techniques dans ces domaines-là, dans la langue, à travers des contenus accessibles audio, vidéo et jeux ludiques.
En Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes sont en cours pour accroître le développement des start-up et cela pourrait susciter l'éclosion de solutions durables. Rokia Fofana, directrice de cabinet adjointe au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation.
Le gouvernement ivoirien a adopté des mesures législatives fortes visant à favoriser l'essor de l'écosystème entrepreneurial. Je veux citer donc la loi sur les startups, également connue sous le nom de Startup Act, qui a été promulguée à la fin de l'année 2023.
À l'heure où la transition énergétique se présente comme une solution face au réchauffement climatique, le numérique offre plusieurs opportunités à explorer.
Merci à vous, Ghislain Koulibaly, pour ce dossier d'actualité qui met un terme à notre édition, dont voici le rappel des titres. Plus de 110 recettes de services des ministères passeront en recettes fiscales, une décision qui émane du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel. Et puis un projet de loi modifiant la loi portant code de la nationalité a été adopté hier par le Sénat ivoirien dans le cadre de la lutte contre la fraude sur la nationalité, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambili. Sur le continent, pour terminer, des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont tué au moins 25 civils à Al-Fasher, ville du Darfour Nord, selon une organisation dénommée Emergency Lawyers. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière édition de ce mercredi 17 avril 2024 sur Radio de la Paix. Excellente soirée.
Radio de la Paix, l'info juste.